France Inter.
7h, le journal. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, toujours plus de profits au détriment des soins.
Les laboratoires d'analyse médicale dans le viseur de l'ordre des médecins qui appellent à légiférer contre leur rachat toujours plus important par des fonds de pension. À Gaza, manger de l'herbe sauvage pour ne pas mourir de faim, les habitants attendent toujours l'aide humanitaire. Le plus grand squat d'Île-de-France menacé d'expulsion et la belle province invitée du Festival du Livre de Paris. On parle québécois à la fin de ce journal.
À suivre sur France Inter ce matin, 7h50, rémunérer les fonctionnaires au mérite ou même les licenciés. Proposition choc du ministre de la fonction publique, passé au crible par Dominique Seau et Thomas Porcher dans le débat éco. Et à 8h20, suite des Vendredis de l'Europe, avec aujourd'hui ce débat exceptionnel, Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique, face à Jordan Bardella, président du RN et tête de liste de son parti pour le 9 juin prochain.
France Inter.
Ils sont devenus incontournables depuis la crise du Covid. Qui n'a pas mis les pieds dans un laboratoire d'analyse médicale pour un test PCR? Des labos détenus à 75% par des fonds de pensions étrangers, alors qu'il y a 10 ans, ils n'en détenaient que 16%. Il faut dire que le secteur ne cesse de rapporter toujours plus. Le taux de rentabilité de la biologie médicale a doublé entre 2019 et 2021 pour atteindre 32%. De quoi attiser les convoitises depuis qu'en 2001, la possibilité a été donnée à des non-médecins d'entrer au capital des laboratoires. Les professionnels de la santé s'inquiètent de cette financiarisation. L'assurance maladie elle-même parle d'une tendance de fond qu'il faut mieux réguler. L'ordre des médecins vient donc de demander au pouvoir public de légiférer, Victor Dolande.
Rachat de parts dans les laboratoires d'analyse médicale, de cabinets de radiologie, de centres dentaires, de cliniques privées. Ces dernières années, les fonds de pension nord-américains, anglais ou même saoudiens ont pris une part très importante dans le système de santé français. Jean-Marcel Mourgue est vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins.
La finalité de tels investissements est de faire du rendement. Donc à ce moment-là, c'est bien des choix qui impactent sur les objectifs de santé publique. Que des investissements soient faits au seul but de la rentabilité et non pas de la nécessité de parcours de soins vertueux.
Le Conseil de l'Ordre propose justement un moyen concret pour stopper ce mouvement de financiarisation. Antoine Lémarie, sociologue de la santé à Sciences Po.
On parle notamment d'interdire strictement le fait que des acteurs non médecins puissent détenir des parts dans les organisations de santé. En effet, la loi autorise que 25% du capital puisse être détenu par un tiers qui n'est pas médecin. Et aujourd'hui, l'ordre professionnel porte l'idée qu'on interdise rétroactivement la détention de parts dans ces sociétés.
Ces fonds d'investissement interviennent le plus souvent lorsque des médecins partent à la retraite et peinent à trouver un successeur. Pour contrer cette financiarisation, certains économistes estiment aussi qu'il faudrait revaloriser la rémunération des médecins.
Le secteur de la santé est décidément bien en peine, si bien qu'à Strasbourg, le syndicat Force Ouvrière du CHRU a porté plainte contre X hier avec constitution de partie civile pour non-assistance à personne en danger. Le syndicat avait déjà signalé à la justice l'engorgement des urgences en décembre dernier. Il estime que des mauvaises prises en charge sont la cause de 2 décès en mars et septembre 2022. Christian Prudhomme est le secrétaire général de FO Santé dans le Bas-Rhin.
Il y a eu des prises en charge qui sont impactables aux conditions d'admission et aux conditions dues au flux qui n'arrivent pas à se réguler, qui peuvent être très graves. Il y a un déni en fait de nos tutelles sur la situation et il y a un refus de prise de responsabilité. On a eu porte close à chaque fois des éléments de langage, chaque fois des courriers courts pour dire qu'on avait conscience de la situation, mais rien derrière. Donc on se rend bien compte qu'il nous reste, on va dire, un levier, c'est le judiciaire. Pour nous, la situation est suffisamment grave pour qu'il y ait une prise de conscience. Et puis on transpose, on dit si nous, c'est quelqu'un de notre famille qui irait aux urgences. On se dit dans les conditions actuelles, c'est pas concevable.
Christian Prudhomme, FO Santé avec France Bleu Alsace, il affirme que près de 90 droits d'alerte ont été émis ces 2 dernières années.
Bientôt 7h05 et encore des dizaines de morts ces dernières heures à Gaza.
Au moins 60 personnes tuées dans des bombardements israéliens en 24 heures selon le Hamas. Après plus de 6 mois de guerre, le territoire est exsangue. Selon l'envoyé humanitaire du gouvernement américain hier, la majorité, voire la totalité des 2 200 000 habitants du territoire sont confrontés à la famine. Hier, Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a pris note de la promesse d'Israël d'ouvrir plus de points de passage pour l'aide humanitaire, mais pour l'instant, les mesures ne sont toujours pas mises en œuvre. Alice Froussard, depuis Ramallah, en Cisjordanie, a pu recueillir des témoignages sur place.
Chaque jour, c'est le même rituel. Sortir sur les marchés, dans les rues, demander aux voisins pour chercher un peu de nourriture dans le nord de Gaza. Ahmad n'a que 12 ans, mais il attend près de la plage un prochain largage alimentaire.
Je suis juste ici pour essayer d'avoir un repas pour mes frères qui sont plus jeunes. Ils ne cessent de me dire qu'ils ont faim. Mais je reviens encore une fois sans rien. Pourquoi ils n'apportent pas l'aide directement aux familles? Comment une femme qui a perdu son mari réussira à apporter à manger à ses enfants?
Depuis déjà 2 mois, plusieurs pays larguent régulièrement des colis d'aide alimentaire au-dessus du nord de la bande de Gaza. Au sol, les plus jeunes risquent leur vie pour les récupérer en premier. Ceux qui n'y parviennent pas se contentent d'herbes sauvages comme le roubaisé qu'ils cueillent dans la nature, ce qui est très loin d'être suffisant.
Ici, on vit dans une situation terrible. Il n'y a rien. Et lors des distributions, tu peux mourir en te faisant tirer dessus par l'ennemi ou te faire piétiner par la foule.
Selon le ministère de la Santé de Gaza, au 1er avril, 32 personnes, dont 28 enfants, étaient mortes de malnutrition et de déshydratation dans des hôpitaux du nord de la bande de Gaza.
Hier soir, les États-Unis ont demandé à leurs diplomates en Israël de limiter leurs déplacements à Tel Aviv, Jérusalem et Beersheba pour des raisons de sécurité, notamment la crainte de représailles iraniennes suite à une frappe qui a détruit un consulat iranien en Syrie. Autre inquiétude en Ukraine, celle de l'Agence internationale de l'énergie atomique après les récentes attaques sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, les premières à viser directement l'installation depuis 2022, le début d'un nouveau front de guerre extrêmement dangereux selon le directeur de l'AIEA. Des appels à la désobéissance civile au Mali après un nouveau tour de vis de la junte au pouvoir. Les colonels ont décrété mercredi la suspension jusqu'à nouvel ordre de toute activité politique et dans la foulée hier l'interdiction pour tous les médias de diffuser ou de publier toute information sur ces partis. Les colonels n'ont jamais organisé la présidentielle malienne en février, ni rendu le pouvoir à des civils en mars, comme ils s'y étaient pourtant engagés auprès de la CDAO.
Ils s'attendent à une nouvelle vidérance contre leur gré.
Les centaines de personnes qui occupent le plus grand squat d'Île-de-France, un bâtiment désaffecté dans une zone industrielle à Vitry-sur-Seine, 450 migrants venus du Tchad, du Soudan ou d'Érythrée et qui se sont installés là il y a 3 ans, faute de mieux. Mais d'après les associations humanitaires qui s'en occupent, l'expulsion se profile sur fond de JO. Reportage sur place de François Ventéjou.
Le matelas posé par terre au pied de la gazinière. Awa, une Ivoirienne de 30 ans, vit avec son mari et ses 2 enfants en bas âge, dont ce bureau converti en chambre, même pas 15 mètres carrés.
Je cuisine, les enfants sont là. C'est beaucoup de risques, on n'en a pas de choix en fait.
Elle raconte ne plus dormir depuis plusieurs jours à cause de cette menace d'expulsion.
On ne sait pas comment ça va se passer.
Derrière la porte de son placard, 2 sacs sont prêts.
C'est les habits d'été, on a pris quelques-uns et laissé le reste.
Quelques affaires en cas de départ précipité, elle a peur de se retrouver à la rue.
Je suis capable de voir le train et me jeter devant le train parce qu'il n'y a pas de solution. Pour mes enfants, parce que je ne peux pas voir mes enfants dans la rue.
Awa est en situation irrégulière, déboutée de ses demandes d'asile. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des migrants qui vivent ici.
Plus de 80% sont en situation régulière, en fait. Donc soit réfugiés statutaires, soit demandeurs d'asile.
Gilles Apprentis est bénévole au squat et membre de l'association United Migrants.
Il y a des gens ici qui ont des CDI, qui ont des fiches de paye de plus de 2000 balles par mois. Mais ils n'arrivent pas à décrocher un logement. Ce n'est pas normal. Sortir les gens d'ici pour les envoyer dans des SAS en région ou dans des chambres d'hôtel pendant une semaine, franchement, c'est inutile.
Selon l'association, on ne peut que faire le lien entre cette menace d'expulsion et l'organisation des Jeux Olympiques dans 3 mois et demi.
Solliciter la préfecture du Val-de-Marne n'a pas répondu à nos questions. Concernant le logement, le gouvernement souhaite faire sortir plus facilement les locataires d'HLM dont les revenus ont évolué. 8% des locataires HLM ne seraient plus éligibles à un logement social s'ils en demandaient un aujourd'hui, selon le ministre, précision dans le journal de 8h. Le gouvernement qui par ailleurs ne passera pas par le Parlement pour discuter de la future feuille de route énergétique, mais par décret. Depuis 2019, la loi prévoit pourtant que la programmation énergétique, celle qui décide de la place du nucléaire ou des renouvelables, soit débattue au Parlement. Il se décide à descendre dans l'arène à 2 mois des élections européennes. La tête de liste du Rassemblement National, qui avait boudé jusqu'ici tous les débats radio-télé, débattra tout à l'heure sur Inter. Jordan Bardella face au candidat PS Raphaël Glucksmann. Tous les deux voulaient cette affiche. fiche. Maxence Lambrec, vous nous expliquez ce qui les motive.
Officiellement, le débat d'idées, la confrontation de deux modèles que tout oppose. Raphaël Glucksmann compte soulever les incohérences de Jordan Bardella. Lui veut faire de son adversaire un Parisien déconnecté. Officieusement, le dauphin de Marine Le Pen cherche à crédibiliser le candidat du PS pour affaiblir Emmanuel Macron. Il vient dire « Regardez, il n'y a pas que deux bulletins de vote. Et si Raphaël Glucksmann grignote quelques points à Valérie Ayé, tant mieux, cela agrandira encore le fossé. » Côté socialiste, il y a l'envie d'en découdre avec le favori des sondages. C'est le seul candidat de gauche avec qui Bardella accepte le débat, se réjouit-on dans son équipe. À vrai dire, le patron du RN vient de batailler avec Manuel Valls pour le Figaro et il y a été sans détour.
La cohérence des diagnostics, et je vais être un peu taquin, des analyses que vous faites, devrait vous pousser à voter pour nous aux élections européennes.
Ça, je m'y attendais.
Et non à voter pour M. Glucksmann, qui lui défend une vision post-nationale, c'est-à-dire qui s'inscrit pleinement dans le fédéralisme européen. Vous êtes un homme seul à gauche.
Manuel Valls qui hésite à voter PS ou Renaissance, qui entretient la confusion idéale pour le RN.
Et débat Jordan Bardella, Raphaël Glucksmann, ce sera donc tout à l'heure en direct à 8h20. Dans la Drôme, les suspects du meurtre d'un adolescent de 15 ans à Romans-sur-Isère sont en garde à vue pour assassinat. On en sait un peu plus sur le scénario. Le père d'un jeune qui s'était violemment disputé avec un autre organise une expédition punitive avec son fils et son grand frère de 27 ans. Une fois leur cible localisée, le père incite son fils cadet à s'expliquer. À ce moment, un adolescent étranger à toute l'affaire tente de s'interposer. Il est poignardé mortellement par le grand frère. Quatre personnes sont actuellement en garde à vue. Et puis à Saint-Malo, 10 mois de prison ferme prononcée hier contre l'homme qui avait tenté d'incendier la mosquée de la ville en début de semaine. Une défaite, mais l'espoir quand même des footballeurs marseillais après leur 2-1 concédé hier à Lisbonne face au Benfica en quart de finale aller de la Ligue Europa. Tout ce jouera au match retour jeudi au Vélodrome. On sait qu'on est capable de se surpasser quand on est porté par notre public, dit l'entraîneur de l'OM. Même score de 2-1 subi par Lille à Aston Villa en Ligue Europa Conférence. Et même espoir avec ce but à l'extérieur pour le match retour. Enfin, ça sent bon, le papier neuf et les couvertures chatoyantes. L'ouverture ce matin au public du Festival du Livre de Paris qui célèbre cette année le Québec, patrie d'une littérature créative. Mais en faire son invité d'honneur, Ilana Mor-Youssef, a aussi une signification politique.
La scène se passe à la délégation générale du Québec à Paris. La déléguée générale dit tout son plaisir de voir le Québec invité d'honneur du Festival du Livre. Elle précise aussitôt qu'elle a rang d'ambassadeur et que, je cite, « nous sommes une nation ». Une nation, une langue, confirme Gilles Hermand, directeur du Septentrion, l'un des principaux éditeurs d'histoire québécois.
C'est vraiment une façon de dire on existe. On existe et dans notre langue. C'est particulier que le Québec aujourd'hui parle encore français. Il n'y avait rien d'évident là-dedans. Après avoir eu une conquête par les Britanniques, au Québec, on a réussi à préserver la langue. Bien sûr que c'est politique.
Cela passe par un monde de la culture massivement subventionné et une littérature qui a fini par trouver sa voie, explique Chantal Guy, l'une des plus éminentes critiques littéraires au Québec.
Dans les années 90, on trouvait que souvent, certains écrivains québécois écrivaient comme dans une langue de traduction française, avec des expressions qu'on n'utilisait jamais au Québec, par exemple, « ah, c'est ringard », des expressions très franchouillardes, comme si on voulait plaire à un lectorat français. Et ce n'est plus du tout le cas. Il n'y a plus un rapport d'infériorisation par rapport à la littérature française. C'est une littérature qui s'assume complètement maintenant.
Une littérature d'Amérique, mais en français.
Voilà, 42 écrivains québécois au Festival du Livre de Paris, c'est ce week-end au Grand Palais éphémère.
Et un plateau spécial demain à 8h20 sur France Inter. C'était le journal d'Anaïs Feuga. À suivre dans la prochaine demi-heure, le Zoom, dernier épisode de notre série Faire famille, faire un bébé toute seule.